Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire. Cette semaine, nous allons parler communication. Le sanctuaire de Lourdes accueille ces jours-ci les journées Saint-François de Sales, des journées faites par et pour des journalistes et des communicants, un sujet qui intéresse l'Église. Alors pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle au sujet de la communication, Monseigneur Mika ?
Le pape Paul VI avait écrit un grand texte qui s'appelle « Annoncer l'Évangile ». Et dans ce texte, il a une phrase célèbre qui est souvent reprise. « L'Église existe pour évangéliser ». Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et donc, forcément, les médias sont autant de supports. L'écriture, la parole, traditionnellement, la proclamation, etc. Et puis tous les outils qui, aujourd'hui, portent cette parole sont utiles pour l'évangélisation. Et donc, voilà.
Est-ce qu'il y a une manière chrétienne de communiquer ou d'utiliser tous ces outils que vous évoquez qui nous entourent et qui nous inondent même parfois ? Est-ce qu'il y a une manière ou une vision chrétienne à apporter avec ces outils de communication ?
Ce sont des outils, des supports. Ils ne sont pas à eux seuls ou à eux-mêmes, en eux-mêmes, le message que l'on veut communiquer. C'est-à-dire, ils sont des outils, voilà. Et les outils, on en fait ce qu'on en veut. Et donc, il y a une manière juste de les utiliser, comme il y a une manière pas juste de les utiliser. Ce sont des outils puissants qui peuvent servir à manipuler des personnes ou des foules en communiquant d'une manière astucieuse telle ou telle information, telle ou telle idéologie, et c'est extrêmement efficace et convaincant auprès de beaucoup. Et donc évidemment qu'il y a des manières pas valides, pas justes d'utiliser ces outils. Et dans la foi, on utilise l'outil pour transmettre non pas nos idées, non pas nos idéologies, non pas nos sentiments, non pas nos convictions, mais pour transmettre la parole de Dieu qui nous est confiée. Nous sommes des vases fragiles, d'argile, mais nous portons un trésor, et ce trésor, on veut le communiquer. Et donc l'outil, il est utilisé de manière pas neutre, parce que notre personnalité va marquer la manière de transmettre la parole que l'on reçoit, forcément. Mais à travers notre personnalité, c'est la parole de Dieu qui doit être transmise, et l'outil est au service de cela. Non pas pour contraindre, non pas pour manipuler, mais pour faire connaître. Voilà, point.
C'est la question de la vérité, ça veut dire que la vérité a sa place dans la communication. Il faut communiquer en vérité, c'est peut-être notre responsabilité de communicant ou de journaliste chrétien ?
Communiquer en vérité, alors il faut faire attention de ne pas penser ou imaginer qu'une neutralité totale, absolue est possible. La Bible est composée de 70 livres, textes de nature différente, composés à des périodes différentes. Et depuis plus de deux siècles, on a bien appris à lire la Bible, précisément, en tenant compte de la personnalité des auteurs, des contextes, etc., qui marquent la manière dont des choses sont formulées. Mais une fois que l'on a identifié cela, on identifie aussi que cela est au service de la transmission de l'unique parole de Dieu. Et l'Esprit Saint fait le lien entre l'auteur qui marque le texte qu'il produit par son époque, sa personnalité, son style, et le lecteur qui, à une autre époque et dans une autre culture, va recevoir non pas la pensée de l'auteur du texte, mais la parole de Dieu. Donc ce processus, on l'a parfaitement identifié, il est possible, et c'est exactement le même mécanisme que l'on espère mettre en œuvre aussi dans la manière dont aujourd'hui on utilise les médias pour transmettre la parole de Dieu. Il ne faut pas rêver d'une neutralité absolue, ce n'est pas possible. Il faut assumer d'être d'une langue, d'une culture, d'une sensibilité, etc. Mais une fois qu'on a assumé ça, on peut le mettre objectivement au service de l'unique parole de Dieu et faire en sorte que les lecteurs, même s'ils ne partagent pas complètement notre langue, notre culture ou nos idées, reçoivent ce que l'on a voulu transmettre, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Au fond, Dieu est un super communicant à travers sa parole, à travers la Bible.
Et il nous apprend à le faire, nous aussi, d'une manière juste.
Alors, on peut peut-être faire un point sur la communication dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Quel rapport vous avez aux outils de communication qui sont mis au service de notre église diocésaine ?
D'abord, je les apprécie, je les soutiens. Je trouve qu'ils sont bien menés, bien gérés, qu'ils sont au service à la fois de la connaissance de ce qui se vit de bien, de grand, de beau dans l'Église sur le territoire du diocèse de Tarbes-Lourdes. Voilà, ils transmettent aussi ce que je peux avoir à communiquer aux diocésains, aux uns et aux autres, et au-delà des diocésains. Ils transmettent aussi, ils se font l'écho de la parole du pape, du Saint-Siège, de la conférence des évêques de France, lorsqu'il y a un communiqué sur un sujet de société. Voilà. Et donc, je trouve qu'ils sont fidèles à cette mission et qu'ils ne sont pas simplement, inféodés à la parole de l'évêque dont ils seraient le promoteur exclusif, quitte à dire des choses pas vraies, mais qu'ils sont au service de la parole de Dieu que les uns et les autres nous servons à travers ces médias. Il me semble qu'ils sont bien orientés pour cela, que ce soit la radio, que ce soit le bulletin diocésain, que ce soit la newsletter régulière, que ce soit les autres supports par lesquels les paroisses communiquent aussi avec les journaux paroissiaux, etc.
Pour terminer sur cette question de la communication, est-ce que vous pensez que la communication, en fait, c'est un service plus qu'un outil ?
Ah ben c'est clairement un service, c'est le service de la parole de Dieu, de l'évangélisation, de la mission de l'Église. Voilà, c'est un service diocésain.
Alors Monseigneur Mika, nous allons prendre aussi de vos nouvelles pendant cet entretien hebdomadaire. Vous venez de passer plusieurs jours en vadrouille, si je puis dire, si vous me permettez cette expression. Vous êtes allé à Assise, puis à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être les raisons qui vous ont conduit dans ces lieux, ce que vous avez fait, peut-être ce que vous avez appris ?
Alors, en effet, je suis parti avec le docteur Sandro de Franchisis, directeur du bureau des constatations médicales de Lourdes, à Assise la semaine dernière. On est parti moins de 24 heures sur place pour participer au congrès national de l'Unitalsi, qui est une des grosses organisations italiennes de pèlerinage pour conduire des pèlerins à Lourdes. Et après la pandémie, le docteur Frangisis m'a convaincu qu'il était très important, comme gardien de la grotte de Lourdes, de participer à ces journées à Assise et d'y donner une conférence, ce que j'ai fait avec grand bonheur. J'étais allé à Assise une fois dans ma vie, lorsque j'avais 20 ans, il y a presque 40 ans. Et voilà, j'étais heureux de revenir en ce lieu précis, mais bon, au-delà.
Une conférence en italien ?
Alors évidemment, j'ai fait mon texte en français, puis le docteur Franchisis l'a traduit en italien. Et j'ai passé un petit moment avec lui pour souligner les endroits où il fallait porter l'intonation. Et puis je me suis risqué à prononcer cette conférence en italien. Et puis voilà, tout ça a été extrêmement sympathique. Mais j'espère surtout bienfaisant pour les liens entre Lourdes et puis les organisations de pèlerinage en Italie. Et l'Unitalsi qui est bien présente à Lourdes. Et voilà, des liens sont tissés, sympathiques, fraternels. Et tout ça est bien. Alors ça a été moins de 24 heures. Et puis, sur le retour d'Assise, je me suis arrêté à Paris, où pendant 5 jours, avec 4 autres nouveaux évêques, la promotion 2022 des évêques de France, nous étions pris en charge par le secrétariat général de la conférence pour une session de formation des nouveaux évêques, complémentaire à celle que 2 d'entre nous avons déjà suivie à Rome au mois de septembre, qui, elle, était dimension internationale. Là, à Paris, c'était beaucoup plus. Donc, les 5 nouveaux évêques que nous étions, donc l'évêque du Puy, l'évêque de Tarbes-Lourdes, je les prends par ordre d'arrivée dans l'épiscopat, l'évêque de Rodez, l'évêque d'Aix, et celui qui a été ordonné à la fin de la session, il y a 2 jours, dimanche, il y a quelques jours, dimanche dernier, évêque auxiliaire de Rennes. Beaucoup plus centré sur le fonctionnement de la conférence épiscopale en France, avec rencontre de tous les services de la conférence et de tous les outils, de tous les experts, de toutes les personnes vers qui on peut se tourner lorsqu'on est devant telle ou telle question, dossier, pastoral ou juridique ou ceci ou cela.
Voilà, un évêque n'est pas seul face à tous les dossiers qui arrivent et dont il a la charge.
Ça a été très très bienfaisant en effet de sentir qu'on est adossé à une conférence où travaillent quantité de gens extrêmement compétents, chacun dans son domaine et en même temps aimant l'Église, des gens de foi et qui sont extrêmement sérieux dans ce qu'ils font et voilà, et des personnes ressources pour nous, c'est très très précieux.
Monseigneur Mika, ce samedi 28 janvier, les jeunes confirmants du diocèse de Tarbes-Lourdes se réuniront pour une journée de retraite, de préparation au sanctuaire de Lourdes. Vous aurez l'occasion de les rencontrer ?
Je passe la journée avec eux, en effet. Donc, ben voilà, je m'en réjouis parce que ça a été pour moi une très très belle expérience aussitôt mon arrivée fin mai, début juin, d'être tout de suite dans un calendrier très serré de célébration de confirmation, ce qui était une première pour moi, et bien de prendre ce processus à source, c'est-à-dire dès la journée diocésaine de préparation des confirmants, fera que nos rencontres au moment de la célébration de leur confirmation seront moins des inconnus les uns pour les autres, et c'est très heureux.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
Avec plaisir. Bonne semaine à tous.